Cet après-midi, j'aimerais vous parler d'un sujet dont la Bible parle un peu. C'est mentionné au moins une fois clairement que Dieu verse des larmes. Dieu pleure. Alors, c'est bien loin de la conception que les gens se font de Dieu. Certains disent qu'il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Et la Bible dit, c'est vrai, il est tout-puissant et il fait ce qu'il veut. Il a fait un plan pour l'homme, pour l'éternité. Mais il a laissé à l'homme la capacité de faire des choix. Et même aux anges, en les créant, il leur a donné une âme et un libre arbitre. L'homme n'est pas un pantin, ce n'est pas une marionnette. C'est quelqu'un qui a cette capacité incroyable donnée par son Créateur de faire des choix. Et c'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit, venez. Il ne dit pas, je vous oblige à venir. Il dit, venez. Jésus, dans un moment très touchant de son ministère, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et ceux qui te sont envoyés, combien j'aurais voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Les larmes de Dieu. On va commencer avec plusieurs, donc différents passages en Ézéchiel chapitre 28, verset 12. Ézéchiel 28 et verset 12, nous avons une première histoire. Et sans doute, c'était, nous ne savons pas exactement quand ça a eu lieu, mais c'était très très tôt dans l'histoire, peut-être même avant la création des cieux et la terre, parce que la Bible dit que les fils de Dieu, les anges, se réjouissaient quand Dieu a créé la terre. Donc peut-être même avant, Dieu avait créé des êtres que nous appelons des anges. Ce sont des êtres qui sont différents de nous. Ce n'est pas la même catégorie d'êtres, mais c'est des êtres extrêmement puissants, pleins de talents, magnifiques, intelligents, qui ne sont pas liés à des lois physiques, qui sont des esprits, mais qui peuvent prendre une forme humaine, et qui, d'ailleurs, plusieurs fois, sont apparus à différents hommes dans la Bible des anges. Mais en Ézéchiel 28, nous lisons dans le verset 12, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardois, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Chapitre 28, Ézéchiel. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 12. Et nous sommes au verset 13. « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Il continue en disant, « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » Il parle à un être qu'il a créé avec un luxe de gloire. Créé dans un contexte de pierres précieuses, dans le jardin de Dieu, un magnifique être avec des ailes, chérubin de la présence de Dieu. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est difficile pour nous de nous placer à la place de Dieu, mais imaginez ce que Dieu devait ressentir, l'être tout-puissant, plein d'amour, avec une sagesse parfaite. Il crée des anges. Et puis il en crée un plus beau que les autres, destiné à des responsabilités plus élevées, peut-être plus proche de sa personne, parce qu'il lui parle d'un chérubin protecteur. Il était déployé dans la présence de Dieu. Et cet ange était parfait, magnifique. Mais Dieu lui avait donné la capacité de faire des choix moraux. Et c'est là que nous l'apprenons. Parce que cet ange-là, il a commis le premier péché de l'histoire de l'univers. Il a conçu dans son cœur de l'orgueil. Et c'était la toute première fois que le mal a pénétré dans l'univers. Parce que le mal, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Le mal, c'est une décision que nous prenons dans notre âme et conscience. Et cet ange a pris une très mauvaise décision, il a fait un mauvais choix, il a décidé, je vois que mon Créateur, l'Éternel, il reçoit l'adoration de tous les anges. Moi aussi, je voudrais qu'on m'adore. Et son cœur s'est élevé par orgueil. Et Dieu voit cet orgueil. On ne peut qu'imaginer sa tristesse et des larmes qu'il a versées. Dans Jérémie 13, verset 17, je cite ce verset où le Seigneur dit, « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Je pleurerai à cause de votre orgueil. » Et quand Satan, donc, parce que c'est Lucifer qui est devenu Satan, l'adversaire, quand il a conçu dans son cœur de l'orgueil, Dieu dit, « Je pleurerai à cause de votre orgueil. » Notre orgueil fait verser des larmes à Dieu. Il en est chagriné. L'orgueil, c'est le père de tous les péchés. C'est par orgueil qu'on veut s'affranchir de Dieu. C'est par orgueil qu'on dit, moi d'abord, les autres ensuite. C'est, j'ai pas le temps de m'occuper de Dieu. Dieu n'existe pas. Tout ça, c'est le fruit de ce premier péché qui est l'orgueil. Mais, malgré ça, et malgré le fait que Satan est devenu l'ennemi de Dieu, et malgré le fait que l'humanité est le champ de bataille, parce que nous, on est soumis aussi à des tentations que le diable nous présente. On est soumis aux mensonges que le diable nous dit à l'oreille. Nous sommes soumis à un monde où Satan règne en maître. Ce monde est globalement contre Dieu et contre Jésus-Christ. Et qui est contre Dieu et contre Jésus-Christ? Satan. Donc, ce monde marche un peu à la musique de Satan. Mais Dieu finira par juger Satan. Il finira, la Bible dit, et le diable qui séduisait les hommes, c'est bien ce qu'il fait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Parce que Satan savait qui était l'Éternel. Parce que Satan savait que l'Éternel l'avait créé. Parce que Satan savait qu'il était une créature et non pas le Créateur. Et parce qu'il a voulu se placer à la place du Créateur. Il a péché en toute connaissance de cause. Et son jugement est certain. Et Jésus-Christ a scellé la condamnation de Lucifer sur la croix du Calvaire. Il a vaincu définitivement Satan. Satan est un ennemi, mais c'est un ennemi vaincu en Jésus-Christ. Mais que de tristesse dans le monde, que de tristesse et que de larmes à cause de la chute de Satan. Mais maintenant, plus près de nous, en Genèse chapitre 3, on peut beaucoup critiquer Lucifer d'avoir péché, et c'est vrai qu'il était face à son Créateur. Franchement, on peut dire qu'il n'avait pas d'excuses, mais le péché ne comporte pas d'excuses. Hein. Quand nous péchons, il n'y a pas vraiment d'excuses. On ne peut pas dire, oui, mais bon, ben, on blâme les autres. Mais quand nous péchons, c'est bien que nous qui voulons pécher. C'est nous qui savons que ce qu'on est sur le point de faire est mauvais et on le fait quand même. On le fait quand même. Et donc, l'homme, lui, ne savait pas ce qu'était le bien et le mal, mais il a décidé de désobéir à Dieu. Donc, c'était déjà le péché en Genèse chapitre 3. Et donc, Adam et Ève vivent dans le jardin de Dieu, un peu comme Lucifer vivait dans le jardin céleste de pierres précieuses. Adam et Ève vivaient dans un jardin terrestre rempli d'arbres fruitiers. C'était une merveille. C'était le paradis terrestre. Mais dans le chapitre 3 de la Genèse, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu, a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Juste une petite illustration. Imaginez que vous avez un ami très très proche, vraiment vraiment proche. Quelqu'un, vous aimez passer du temps ensemble, vous passez les soirées ensemble, vous faites des promenades ensemble, vous avez beaucoup de choses à vous raconter, vous faites des textos et des coups de fil à longueur de journée, et vous dites, oh, je ne veux même pas envisager ma vie sans cette belle amitié, sans cet ami qui m'apporte tant de joie. Et puis une tierce personne va voir votre ami et dit du mal à votre sujet à cet ami. Elle lui dit que vous êtes profiteur, que vous êtes égoïste, qu'en fait vous n'aimez pas du tout cet ami, en fait vous profitez de cette amitié, que vous avez des motivations cachées, que vous paraissez très très sympathique au dehors, mais en fait à l'intérieur vous êtes prêt maintenant à trahir cet ami. Et votre pauvre ami gobe tout ce que dit cette personne. Il vous appelle comme d'habitude. Et ça ne répond pas. Vous laissez des messages, vous envoyez des textos, pas de réponse. Vous allez dans la rue, vous voyez votre ami, « Oui, j'essaie de... » Et puis la personne change de trottoir. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est ça, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais très bien ce qui se passe. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Si, hypocrite comme tu es, tu sais parfaitement, mais votre cœur serait brisé. Quelqu'un est venu mal parler de vous et a cassé la confiance que cette personne plaçait en vous. C'est la rupture de l'amitié. On verse les larmes avec une amitié qui est perdue comme ça. Imaginez le chagrin de Dieu. Il a créé Adam et Ève. Dans quel but ? Pour être en communion avec eux. Et tous les soirs, il descendait, parlait avec Adam et Ève, il marchait dans le jardin. C'était une communion sans ombre, sans problème. Le Créateur et la créature, ensemble, complices. Mais l'adversaire de Dieu passe par là et il calomnie le Créateur. Il dit à Ève, en quelque sorte, tu sais, Dieu, quelque part, il profite de vous, hein. Vous ne connaissez pas la différence entre le bien et le mal, ben il ne veut pas trop que vous le sachiez parce que, comprenez, c'est pas tout à fait, hein, ses intentions. Je crois que vous devrez vous méfier, en quelque sorte. Et si vous mangez ce fruit qui vous a défendu, vous aurez des connaissances que lui seul il a. Et si il sait que vous savez autant que lui, là-dessus le bien et le mal, comprenez que, alors il ne dit rien de précis, mais il laisse planer le doute, la suspicion. Déjà, Ève, ça vient tourner la tête, le raisonnement, et elle se permet de penser, et si cette belle amitié avec l'Éternel, c'était une arnaque? Puis en regardant l'arbre, elle le voit d'un œil différent. Eh bien oui, finalement, pourquoi il m'empêcherait de manger ce fruit? Il a l'air très bon, il a l'air délicieux. Pourquoi Dieu m'empêcherait-il de manger un si beau fruit? Ça ne ressemble pas à l'amour Allez, moi je vais le manger, je viens de lui Adam. Immédiatement après avoir désobéi à Dieu, ils comprennent la différence entre le bien et le mal. Immédiatement, leur conscience naît et ils comprennent ce que nous venons de faire est mauvais. Ce couple n'avait pas de vêtements, mais il n'en avait pas besoin et il n'en avait pas honte parce qu'ils étaient innocents. Dès qu'ils ont mangé de cet arbre, ils se sont rendus compte que la nudité, ce n'est pas approprié. Dans la journée, en public, ils ont dit il faut se couvrir. Immédiatement, ils ont eu cette pensée. Ce qu'il faudrait faire, c'est se couvrir. Et ils ont fait des vêtements avec ce qu'ils trouvaient à proximité, des feuilles de figuier. Et quand l'Éternel descend, comme d'habitude, au lieu de sortir en disant « Nous avons exercé notre libre arbitre, maintenant nous sommes comme toi, nous connaissons le bien et le mal. » Non, ils savaient d'instinct qu'ils avaient choisi le mal. Ils avaient choisi la rébellion contre Dieu. Dieu descend, plus de couple là pour l'accueillir, plus de belles promenades. Il ne voit personne et il sait où ils sont. Hein. Il est obligé de les appeler, de les faire venir, de les punir, de les chasser du jardin. Vous croyez que ça faisait plaisir à l'Éternel? C'était à verser des larmes. L'amitié était cassée. Bon, le Seigneur tout de suite a restauré cette amitié. Il leur a permis d'avoir des bases pour revenir à lui. Parce qu'il les a revêtus de peaux d'animaux. Et il leur a enseigné comment faire des sacrifices pour faire pardonner leurs péchés. Puisque Abel et Caïn savaient faire des sacrifices à l'Éternel par rapport à leurs péchés. Mais ce n'était pas pareil que cette douce amitié qu'ils avaient connue. Alors que si on réfléchit tant soit peu à ce que ça doit être, d'être tout puissant, avec toute sagesse, de créer des hommes et des anges avec un libre arbitre et de voir et Lucifer et Adam et Ève tomber dans le panneau, tomber dans le péché, s'éloigner de Dieu, prendre Dieu comme leur ennemi, se méfier de Dieu alors qu'il leur a tout donné. C'est à verser des larmes. C'est le chagrin que Dieu connaît. Un autre domaine, c'est en Osée chapitre 2. En Osée chapitre 2, alors Osée c'est le premier des petits prophètes. C'est un peu difficile à trouver, c'est après Daniel.
Vers la page 895.
Ah voilà, ça nous aide.
La page 895. Ça, c'est Osée, chapitre 1.
Osée chapitre 1. Donc, il faut peut-être tourner une page, mais... Là, nous avons une situation triste. Chapitre 2. Dieu va parler à Israël avec des termes assez terribles. Il va parler d'Israël comme si ce peuple était une prostituée. Alors, on sait très bien que ce n'est pas un langage qu'on tient dans une église chrétienne que de parler de la prostitution, ce n'est pas quelque chose d'honorable. Mais c'est ainsi que Dieu traite l'idolâtrie comme de la prostitution. Nous lisons dans le verset 4, et alors Osée, lui, il a versé des larmes, parce que Dieu lui a demandé d'épouser une certaine femme qui soit était déjà prostituée, soit est devenue prostituée, après son mariage avec le prophète Osée. Et donc, Osée, il était dans la honte, mais aussi dans la souffrance, de savoir que son épouse faisait ces choses-là. Et il dit, verset 4, « Plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari, qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance, je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif, et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. » Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants, qui me donne mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et elle ne les trouvera pas. Puis elle dira, « J'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Là, c'est pareil. Et ça arrive de temps à autre dans les couples. Un homme, un mari fidèle, dévoué, qui travaille pour pourvoir aux besoins de sa famille. Puis une femme, volage, légère, inconsciente, sans reconnaissance, sans comprendre les sacrifices de son mari. Il a dit, oh, mais je pourrais peut-être, je vois que je plais, je pourrais peut-être avoir des amants. Comme ça, je jouerai sur les deux tableaux. J'aurai des aventures. J'aurai des plaisirs. J'aurai, voilà. Et son mari dit, qu'est-ce qui te manque? Ah, rien, mais j'ai envie de... Je ne vais pas être fidèle à quelqu'un. Ça, c'est à verser des larmes. Aucune vraie raison. C'est juste, j'ai envie de n'en faire qu'à ma tête. C'est ce que l'Éternel éprouvait vis-à-vis de son peuple. Il a choisi un peuple, Abraham et sa postérité. Il leur a dit, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je vous bénirai, je vous conduirai, je vous protégerai, je me révélerai à vous, vous me connaîtrez et vous me ferez connaître aux autres peuples. » Alors, Abraham, Isaac, Jacob et les premiers, ils étaient heureux, ils ont dit oui, l'Éternel, tu es notre Dieu, nous sommes ton peuple. Et Dieu était heureux, il était fier de pouvoir dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Puis il y avait Moïse, et puis Joseph avant lui, et puis Dieu les a sortis d'Égypte, ils étaient esclaves. Dieu les a sortis de la fente de la mer Rouge, il les a fait passer à pied sec. Ils arrivent dans un désert, ils n'avaient ni mangé ni à boire. Dieu leur donnait de l'eau à partir d'un rocher. Il leur donnait de la manne 6 jours par semaine pendant 40 ans pour qu'ils puissent manger. Il les a conduits dans le désert, il leur a parlé, il les a conduits avec une colonne de nuée et de feu la nuit et le jour. Il venait presque tous les jours parler à Moïse, et Moïse pouvait aller voir le peuple. Ainsi parle l'Éternel, Dieu leur parlait presque tous les jours. Dieu les a protégés de 1000 et 1 dangers. Il leur a donné sa loi et les 10 commandements, écrits de son propre doigt. Personne ne pouvait dire « Dieu n'existe pas ». Dieu était présent avec eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Arrivés dans le pays promis, dans le pays de Canaan, ils ont découvert d'autres dieux, d'autres idoles. Des idoles grotesques. Baal, Astarté, la déesse de la fertilité, avec des orgies en guise de culte. Le dieu Baal et le dieu Molech des Moabites et d'autres dieux, mais terrifiants, des dieux païens, des idoles qui réclamaient dans leur culte le sacrifice des bébés, ont tué ses propres bébés et ont les brûlés sur l'autel pour honorer ces idoles. Et le peuple d'Israël s'est tourné vers ces idoles et disait, mais... Nous avons l'Éternel, nous avons le tabernacle, nous avons les 10 commandements, mais nous avons aussi Baal et nous avons Astarté. On est copains avec tous les dieux. Oui, mais leur Dieu existait vraiment. Et les idoles n'existent pas. Et Dieu se moque de ces idoles En Ésaïe, il dit un homme, il va dans la forêt, il coupe un arbre. Avec son ciseau à bois, il se taille une sorte d'idole en bois, un tronc d'arbre qu'il met devant lui. Avec le restant du bois, il fait un feu, il rôtit sa viande, il se chauffe devant le feu, il dit « Ah ah ah, je me chauffe, je me rassasie, c'est chouette !» Et après, il se tourne vers son idole qui vient de tailler « Oh mon Dieu, sauve-moi !» Dieu dit « Comment se fait-il que la moitié de notre tronc d'arbre, vous le priez et l'autre moitié, vous le brûlez pour cuire votre viande ? Ça n'a aucun sens. » Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est à verser des larmes pour le vrai Dieu de voir son peuple qui l'a protégé, qui l'a béni, qui l'a gardé, auquel il a donné un merveilleux pays, ce Dieu-là voit son peuple se tourner vers des idoles et se pâmer, s'enthousiasmer devant ces idoles et toutes leurs pratiques grossières et immoral, alors qu'il connaissait le seul vrai Dieu. Et c'est pour ça que Dieu appelle ça de la prostitution. Parce qu'une prostituée, c'est pas une femme qui forcément veut aller vers les hommes. Elle va vers les hommes sans les aimer. Elle va pour l'argent. Et Dieu disait, c'est pour ça que vous êtes idolâtre. Vous allez vers les idoles, non pas parce qu'elles sont vraies, mais dans votre culte idolâtre, vous pouvez commettre plein de péchés que vous avez envie de commettre. Ce n'est pas les idoles, c'est que ça vous donne l'occasion de pécher et vous détourner de moi. Et Dieu est contre l'idole encore aujourd'hui. Les idoles dans notre vie, il est contre. Parce qu'il sait que ça ne nous mènera à rien. On perd du temps. On perd des forces. On perd de l'argent. On perd son âme. Quand on pourrait juste se tourner vers Dieu et avoir tout ce qu'il nous faut. C'est des larmes, larmes de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure en Matthieu, je vais lire encore une fois Matthieu 23. Jésus est descendu, il s'est présenté à Israël. Des foules entières le suivaient. Il enseignait, les gens venaient lui poser des questions et recevaient des réponses à leurs questions. Les disciples étaient convaincus que Jésus allait régner bientôt. Ils étaient convaincus qu'Israël allait reconnaître en Jésus son Messie. Ils pensaient qu'ils allaient régner avec Jésus tout de suite. Mais Jésus savait ce qui en était. Il connaissait les cœurs de ses ennemis en Israël. Vous savez ce que Jésus a dit, verset 33, chapitre 23 de Matthieu. Matthieu 23 et le verset 33. Je vais vous lire les quelques versets qui précèdent. Ce cri du cœur que Jésus a poussé, verset 33, il parle au peuple d'Israël, le peuple qu'il aimait, et il dit, « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne ? Comment échapperez-vous à l'enfer ? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Dieu envoie des messagers. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus raconte une parabole. Un roi est parti pour un long voyage. Il a laissé un verger et il a envoyé ses serviteurs pour prendre le fruit de son verger. C'était son droit, c'était le propriétaire. Il pouvait prendre le fruit des domestiques. Les domestiques travaillent pour lui, il est payé pour travailler pour lui. Il voulait en une partie de la récolte. Le serviteur vient, je viens de la part du maître, tu viens de la part du maître. Il le frappait. Il envoie un autre, tu viens de la part du maître, il le tuait. Il envoie un autre serviteur. Finalement, le maître dit, j'enverrai mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. Le fils vient. Je suis le fils du maître. Je viens prendre la part de récolte de mon père, le maître, le propriétaire de la vigne. Ah, disent les domestiques, voici le fils. Tuons-le et l'héritage sera à nous. Et Jésus racontait cette histoire avant sa crucifixion. Il disait à la foule, les autorités religieuses de votre pays veulent ma peau, ils veulent me crucifier, ils me feront mourir. Alors que mon Père, c'est le Dieu de votre peuple. Ils vont tuer le fils de leur maître. Mais Jésus dit à ces Juifs, vous avez toujours été contre Dieu. Déjà, le premier couple avait deux fils, Caïn et Abel. Abel obéissait à Dieu, Caïn n'obéissait pas à Dieu, Caïn a tué Abel. Et depuis que le monde est monde, tous ceux qui sont venus vous annoncer la vérité, vous les avez supprimés, vous les avez maltraités, vous les avez moqués, vous les avez repoussés. Et maintenant, je suis le Fils de Dieu et je viens, et vous allez me crucifier, je le sais. Et il dit, combien j'aurais voulu que ça se passe autrement. Combien j'aurais voulu que vous receviez le pardon dont vous avez besoin. Que vous reconnaissiez votre Dieu, mais vous ne voulez pas. Alors vous allez être chassés aux quatre coins du monde. Et quand je reviendrai dans ma gloire, vous me reconnaîtrez comme le Messie. Mais jusque-là, vous vivrez dans la misère pour avoir refusé. Ce n'est pas un langage de dureté, de méchanceté. C'est un langage d'amour. C'est un langage de larmes. Dieu n'est pas insensible. Pour terminer, il y a une autre chose qui provoque les larmes de Dieu dans notre vie, à nous chrétiens. On pourrait penser, oui, ça c'est les gens qui ne veulent pas de Dieu, qui font pleurer Dieu. Mais nous aussi, on le fait pleurer parfois. Dans Jacques chapitre 4, le cas du chrétien qui aime le monde. En Jacques 4, 4 à 7, je vous lis les versets. Jacques écrit aux chrétiens, à nous, adultères que vous êtes. Voyez, on peut aussi être adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pour ça que l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Hein, toujours ce même problème d'orgueil. Hein? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand nous aimons le monde, ça fait verser des larmes à Dieu. Pour le chrétien qui n'aime pas son frère, Dieu pleure. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On a un enseignement très clair. Quand nous avons du ressentiment, de la malice, de la méchanceté, de l'amertume vis-à-vis d'un autre chrétien, nous attristons le Saint-Esprit. C'est Dieu qui verse des larmes. Ou alors, quand nous refusons l'aide de Jésus pour vivre la vie chrétienne, ça attriste Dieu aussi. Il y a des gens qui disent, mais je suis un enfant de Dieu, je peux y arriver tout seul. J'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole, j'ai mon expérience. Je n'ai pas besoin de prier à Dieu, de m'aider à faire face à la tentation. Moi, j'y arrive très bien. Vu la solidité que j'ai en tant que chrétien, je n'ai plus besoin de Dieu. J'y arrive très bien moi-même. La Bible dit, quand nous prétendons y arriver par nos propres forces sans avoir besoin de Dieu, c'est que nous foulons aux pieds le Fils de Dieu. Quand on dit, j'ai pas besoin d'être pardonné, je me débrouille très bien, nous tenons pour profane le sang de l'Alliance. Et quand on dit, je n'ai pas besoin de l'aide du Saint-Esprit pour vivre, j'y arrive très bien, nous outrageons l'Esprit de la grâce. Aucun de nous ne peut plaire à Dieu par ses propres forces. Même si on a 40 ans de vie chrétienne, même si on connaît la Bible par cœur, nous ne pouvons pas vivre pour la gloire de Dieu sans la force que Dieu veut nous donner. Et il veut qu'on reconnaisse continuellement que nous avons besoin de son aide et qu'on la réclame, qu'on la demande et qu'on soit heureux d'avoir besoin de l'aide du Seigneur. Et qu'on ne prétende jamais qu'on y est arrivé, qu'on peut marcher sans son aide, pas une seule seconde. Parce que Christ est vraiment mort pour nos péchés. Son sang a vraiment été versé pour nous purifier. Et l'Esprit Saint nous a vraiment été donné pour nous aider. Et quand nous acceptons avec reconnaissance l'aide que Dieu veut nous donner, nous réjouissons son cœur. Mais quand nous négligeons le Seigneur, quand on ne lui demande pas, quand on n'avoue pas notre faiblesse, quand on prétend qu'on est très fort, et on pêche par orgueil spirituel, ça fait verser des larmes à Dieu, parce qu'il veut tellement nous aider à vivre pour lui. Donc, mes amis, il ne tient qu'à nous de ne pas augmenter les souffrances du Seigneur. Puisque nous avons la capacité de faire des choix, nous pouvons choisir de laisser le Seigneur diriger notre vie. Et si cet après-midi, vous n'avez pas pris cette décision, vous aussi, vous pouvez décider de laisser Jésus entrer dans votre cœur, de vous pardonner, de vous sauver, de vous donner la vie éternelle.